C'est pratique de début d'année de pouvoir prendre la parole devant tous. Comme ça, je souhaite vraiment les meilleurs vœux à chacun encore. Et c'est vrai que de démarrer cette année avec ce constat, comme l'a rappelé Thibaut, c'est difficile de se changer soi-même. Mais ce que j'ai retenu aussi, c'est que la force est en Christ. Et cette force est en Christ et au-delà, c'est-à-dire qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Franchement, dans les chants qu'on a eus ce matin, le Saint-Esprit, il est là, il tape à la porte de notre cœur. Il veut que l'on ressente sa présence en nous et il veut se manifester à chacun de nous. Mais cette manifestation, elle n'est pas qu'intérieure. Elle doit bien sûr se voir. Elle doit être. Nous sommes les temples du Saint-Esprit, on l'a souvent répété, et elle doit être aussi visible de l'extérieur. Et donc, on a des outils pour, des moyens pour faire vivre ce Saint-Esprit, pour manifester cette vrille du Saint-Esprit. Et c'est un de ces outils, ce matin, que je voudrais en entretenir, parce qu'on est donc dans ce premier dimanche de la semaine de prière. Et puis, comme Dieu fait toujours bien les choses, c'est aussi samedi prochain que nous avons notre séminaire sur la prière animé par Yann Newbery. Alors, avec ces deux objectifs immédiats, nous avons pensé utile avec les anciens de faire de ce dimanche une introduction particulière de ce sujet et bien sûr en préparation de ce que nous allons vivre. Alors, nous avons à l'esprit, et puis beaucoup de nos contemporains avec nous, que si nous venons à l'église, nous venons dans un lieu de prière. En effet, n'oublions pas que l'église n'est pas seulement un lieu où la Bible est enseignée, où finalement on reçoit beaucoup dans l'église, mais c'est surtout un lieu où le nom de Dieu est invoqué par nos bouches, par chacun de nous, et un lieu particulier où les bénédictions coulent. La prière est l'activité principale du chrétien. Car par elle, notre esprit communique avec notre Père. C'est ce moyen que nous avons de pouvoir un peu, allez, c'est un mauvais mot ça, mais exorciser notre esprit renouvelé pour qu'il puisse communiquer avec notre Père. C'est beau tout ça. Et la prière est aussi présente dans toutes les religions, et c'est d'ailleurs bien souvent la principale activité religieuses de leurs membres. La prière, en étant le moyen d'activer le besoin de spiritualité de l'homme, est aussi un besoin et quelquefois un réflexe humain. Je ne sais pas si vous voyez un peu sur le site de l'Église, il y a quelquefois des citations, et il y en a une qui revient régulièrement, c'est celle d'Alain Delon qui dit « Tu crois en Dieu, tu n'y crois plus, et quand tu as un gros problème, tu pries quand même. » Tout homme, vraiment même le plus athée qu'il soit, va se surprendre en train de prier dès qu'il a un problème. Alors bien sûr, quand nous abordons ce sujet, comme celui de la lecture de la Bible d'ailleurs, qui est un autre moyen de sentir la vie du Saint-Esprit en nous, nous pouvons tout de suite commencer par « il y a qu'à, il faut qu'on » et penser qu'il y a seulement une notion d'autodiscipline. Nous avons l'impression que cela dépend de notre éducation et de notre caractère, ou bien encore de notre sensibilité, ou encore du contexte de la situation de notre moment. Alors je voudrais couper court à toutes ces suppositions, car ce qui fait que nous demandons ou pas à Dieu, c'est simplement notre foi. Je prends un exemple, quand la faim ou la soif se manifeste, nous ne nous interrogeons pas si... C'est une question d'autodiscipline. Nous mangeons ou buvons tout simplement. Et bien souvent, au contraire, on a besoin de se limiter pour ne pas faire d'excès dans ce domaine. La foi est donc, tout comme la faim ou la soif, l'élément qui nous donne cette dépendance à Dieu et le plaisir de la prière. La foi est ce qui nous permet de croire et de demander ce que nous ne voyons pas, mais que nous pouvons espérer. Ça, c'est Hébreux qui nous donne un peu ces nuances. Et la prière est ce qui nous permet d'alimenter et de faire croître notre foi. Alors il est vrai que ce n'est pas très motivant, je vous l'accorde, de se faire interpeller une nouvelle fois pour s'entendre dire que nous ne prions pas assez. Mais justement, avec les anciens, il nous a semblé important d'aborder ce sujet sous l'angle de l'envie de prier et non pas sous celui de l'effort que nous aurions à faire pour prier. C'est donc le thème de notre prochain séminaire, samedi, vous l'aurez compris. Ensuite, nous entendons quelquefois que si nous n'avons pas envie de prier, c'est que nous ne voyons pas les réponses à nos prières. Alors ça me semble un peu facile comme excuse, je m'excuse pour ceux qui l'avancent quelquefois, et puis des fois aussi pour moi. Et surtout, c'est faire un procès à Dieu, alors qu'il a promis par son Fils que nous recevrons tout simplement après avoir demandé. Est-ce que ce n'est pas plutôt nous qui ne voyons pas l'action de Dieu? Dieu répond toujours à nos prières. Et il attend justement que nous demandions dans le but de recevoir pour qu'à notre tour nous soyons reconnaissants pour faire montrer notre louange vers lui. Il est vrai que Jacques, dans son épître, tempère cette promesse. Jacques 4, verset 3, on va l'afficher. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Alors oui, d'où l'intérêt quand même d'un séminaire, parce qu'on le voit, c'est pas aussi simple que ça, la prière. Y aurait-il une pointe de politesse à intégrer lorsque nous adressons à Dieu une requête? Demandez mal. D'après Jacques, c'est faire passer nos intérêts personnels ou même communautaires avant ceux de Dieu. Mais une demande polie, allant dans le sens de Dieu, rien ne pourra empêcher que notre Seigneur réponde. Car il n'en demeure pas moins que la prière est le moyen par lequel, au nom de Jésus, nous avons accès à Dieu notre Père. Il est d'autant plus primordial de connaître le plan de Dieu et de saisir l'importance de cette opportunité qui nous est donnée d'avoir accès au trône de la grâce. Non pas pour satisfaire nos propres désirs, mais plutôt ceux de Dieu, ceux de l'Église et en faveur du salut et de la justice. Alors ce que je vous propose ce matin, c'est de lire l'enseignement de Jésus sur la prière, c'est lors du sermon sur la montagne, et de s'en rappeler chacun de ces points. On va afficher, c'est Matthieu 6, verset 5, jusqu'au verset 13. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père, qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Allez, ça, vous pouvez me le répéter avec moi, on le répétera encore. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors, dès le début de ce chapitre 6 de Matthieu, donc Jésus condamne les attitudes religieuses motivées principalement par le besoin d'être vu. Donc, vu de faire de bonnes pratiques. Alors, bien entendu, là, Jésus cible les pharisiens, mais pas seulement, car le chrétien a facilement le réflexe de s'emparer de ses attitudes et pour s'acquitter de devoirs religieux et finalement en acquérir quelques mérites. Il nous arrive de parler d'activisme, ben c'est précisément ce qui nous guette dans ce cas, avec cette recherche de nous justifier devant les hommes. Bien entendu, Jésus nous interpelle à nous garder de pratiquer notre propre justice devant les hommes. Et nous nous rappelons que Dieu ne regarde pas à l'apparence extérieure, mais au cœur. Prier, c'est évidemment une excellente chose, mais néanmoins, surveillons nos motifs, car il détermine la valeur de nos actes devant lui. Évidemment, cette attitude est un obstacle majeur pour avoir une réponse de Dieu, puisque ce qui motive la prière dans ce cas est de satisfaire des passions humaines. À la suite de ce constat que fait notre Seigneur, il nous laisse le premier conseil. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Alors, contrairement aux païens qui utilisent des formules toutes faites, qu'ils récitent en boucle avec l'aide quelquefois de moulins à prière, notre prière à Dieu est tout autre. C'est pourquoi nous n'avons pas à chercher à le ressembler, car la particularité de Dieu par rapport à toute autre divinité humaine, c'est que Dieu sait ce dont nous avons besoin, avant que nous lui demandions. Thibaut a rappelé ce verset 4 du psaume 139, « La parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » C'est un fait indéniable. Et maintenant que nous avons encore, nous en plus, le Saint-Esprit, nous avons encore une dimension d'avance encore par rapport à cette parole qui est là et que Dieu connaît bien avant que nous la puissions et nos besoins avant que nous les prononcions. Alors si je peux aussi vous rassurer, c'est que même si on n'ouvre pas notre langue, la grâce de Dieu, elle opère déjà. Il n'attend pas que nous prions, il est déjà beaucoup plus réactif que nous et souvent il répond à nos besoins avant qu'on lui demande. Néanmoins, notre profond désir de son profond désir est de recevoir ses enfants qui s'approchent de lui pour lui parler. Et c'est vrai que c'est souvent cette question un peu qui est mystérieuse, la question, comment se peut-il que Dieu n'intervienne finalement pas systématiquement avant que je prononce de ma bouche ces paroles. Et Calvin apporte une réponse. Aussi, il dit « Les croyants ne prient pas pour avertir Dieu de quelque chose qui lui soit inconnu, pour l'inciter à faire son office ou le solliciter comme s'il tardait trop, mais plutôt afin de se réveiller eux-mêmes, à le chercher, à exercer leur foi en méditant ses promesses, de se soulager en déchargeant leur sollicitude sur lui, et finalement pour rendre témoignage tant à eux-mêmes qu'aux autres qu'ils espèrent et attendent tous les biens de lui seul. » En résumé, Dieu aime entendre les prières exposées de vive voix, afin que nous prenions conscience que lui seul peut répondre et qu'il se plaît à le faire. Alors voilà, nous avons vu que la prière des pharisiens est hypocrite, puis celle des païens, souvent longue, est dite de façon mécanique. Qu'en est-il de la prière des chrétiens? Elle se caractérise par sa sincérité et par son sérieux de la réflexion qu'elle suppose, pour s'assurer qu'elle réponde à la volonté de Dieu. Moi, je suis surpris. On pourrait dire, c'est vrai que le Saint-Esprit, oui, il connaît les paroles qu'on veut dire. Donc, il peut les sortir comme ça, mais il faut quand même qu'il y ait une réflexion. Il faut que notre être entier soit sensibilisé. Et ça me surprend d'autant plus que cette prière-là qui nous est dit qu'il faut qu'elle soit dite, et c'est un exemple qui est écrit, hein, et on le répète souvent, ça m'a frappé de voir que dans l'enseignement de Jésus, il nous est dit de prier de cette façon. Donc il y a bien sûr la liberté de l'esprit, mais il y a aussi un cadre. Il y a cette prière qui plaît à notre Seigneur. Et justement, Jésus, par le Notre Père, nous donne un modèle de ce qu'est la prière chrétienne authentique. Et Matthieu relate cette prière comme étant l'exemple à suivre. Matthieu dit au début, « Voici donc comme vous devez prier. » Et puis Luc, c'est un peu différent, il présente ça comme une formulation possible. Il dit, « Quand vous priez, dites. » Donc en gros, mot par mot, comme on l'a fait tout à l'heure. Ainsi, nous pouvons dire cette prière telle qu'elle, ou bien s'en inspirer pour formuler notre propre prière. Alors tout d'abord, deux mots sur les premiers mots de cette prière, notre Père. Ça commence comme ça, notre Père qui est aux cieux. Jésus enseigne ainsi à ses disciples de s'adresser donc à Dieu comme à un Père. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau pour les Juifs. Cela peut surprendre au premier abord. D'ailleurs, combien d'entre nous avons souvent du mal à appeler Dieu Papa ? Nous avons profondément ancré en nous ces paroles de la loi, hein, Exode 20, verset 7, ou Deutéronome 5, verset 11. « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Donc c'était délicat d'appeler Dieu Papa dans la culture. Et principalement, là, donc, Jésus, il appuie sur ce point-là. Et combien de fois, et moi le premier, je préfère m'adresser à Dieu pour prouver mon profond respect envers lui, ou même au Seigneur pour que lui fasse l'intermédiaire et puis réponde enfin à ma prière. Mais Jésus ne se préoccupe pas outre mesure d'un quelconque protocole qui aurait exigé un titre plus qu'un autre, enfin que un titre plus qu'un autre soit décliné afin de pouvoir aller plus en avant dans la prière. Il n'approuve pas forcément notre respect de façade. Nous nous approchons de notre Père quand nous approchons de notre Père pour finalement acheter quelque indulgence de sa part. Ainsi Jésus se préoccupe plus que nous venions avec nos faiblesses, simplement comme des enfants n'ayant rien à offrir. Plus motivés par la vérité, celle qui consiste à venir devant Dieu dans la disposition d'esprit et de cœur qui convient. Voilà pourquoi il est sage, avant de prier, de consacrer du temps à nous souvenir qui il est et à peser les mots de notre prière. Avant de rentrer en détail sur chacun des points de cette prière de Jésus, prenons le temps de voir comment elle est organisée. Elle est donc décomposée en deux parties. Je ne sais pas si tu peux l'afficher à nouveau. Il y a d'abord celle qui se rapporte à la gloire de Dieu, puis vient ensuite celle qui exprime les besoins de l'homme. Et Calvin a fait un parallèle aussi entre le Notre Père et les dix commandements. Car dans les dix commandements, il y a la première partie qui évoque le devoir des hommes envers Dieu, et puis il y a la seconde partie qui a trait au devoir envers nos prochains et la relation entre les hommes. Et la prière de Jésus suggère donc de commencer par prendre le temps de se tourner vers Dieu et de se rappeler qui il est. Les trois premières requêtes de notre Père expriment finalement la préoccupation que nous portons au sujet de la gloire de Dieu. Le fait que nous prions pour ton nom, pour ton règne, pour ta volonté, fait que nous faisons nôtre finalement les préoccupations de notre Dieu. Donc notre première préoccupation est donc le nom de Dieu. Et il s'agit en premier lieu du nom d'une personne, de Dieu lui-même tel qu'il est. On l'a évoqué dans nos séries sur les différentes personnes de la Bible. Donc sa personnalité, ce qu'il fait, son activité, sa personne. Et son nom est saint, et dans le sens où il est placé au-dessus vraiment de tout nom. Quand nous soyons enseignés par Jésus à sanctifier ce nom, pour moi, c'est une interrogation. J'ai du mal à percevoir ce que ça veut dire. Mais malgré tout, il exprime notre premier désir de voir Dieu reconnu comme tel. Son nom honoré dans ma vie, bien sûr en priorité, dans notre vie, dans notre Église, dans notre Assemblée, et puis bien sûr dans le monde. Vous savez, cet après-midi, je crois, il y a une manifestation à Paris importante. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui se jouent dans notre monde. Et ce qui se joue, on voit que l'apostasie grandit par rapport au mariage homosexuel, à ces libertés que l'on veut donner de plus en plus. Mais on sent aussi que le nom de Dieu est derrière ça, il est blasphémé, il est déshonoré. Mais ce matin, nous voulons proclamer vraiment que le nom de Dieu soit sanctifié, qu'il soit déjà sanctifié dans nos vies, qu'il soit déjà sanctifié ici dans notre assemblée. Et après, peut-être dans notre pays d'Ajax, et c'est ce que veut le Seigneur, mais il a besoin d'abord que ça parte de chez nous. Et après en France et en Suisse. Notre seconde préoccupation, c'est son règne. Le projet de Jésus, c'est son royaume. Et de même qu'il est déjà saint, il est aussi roi. Il règne déjà sur la création, sur l'histoire. Alors demander que le règne vienne, c'est vouloir qu'il s'étende. Concrètement, c'est demander que par l'intermédiaire de notre témoignage et celui de l'Église, le monde puisse venir à Jésus-Christ et que bientôt son royaume soit parachevé et que lui-même revienne pour y exercer son pouvoir. Ça fait écho au fait qu'il faut hâter aussi le retour de notre Seigneur. La dernière requête au sujet de notre préoccupation de la gloire de Dieu concerne la volonté de Dieu. Avant de commencer à prier pour nos propres besoins et pour éviter de dicter finalement notre volonté en faveur de nos intérêts personnels, il est bon de mettre en avant la volonté de Dieu. Nous sommes constamment confrontés à l'égocentrisme de notre société ambiante. C'est ce que nous dit Romains 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, je vais l'afficher, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce serait une folie vraiment de résister à cette volonté. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Ben, tout simplement parce que sa connaissance, sa puissance et son amour sont infinis. C'est la sagesse vraiment, c'est notre sagesse qui est réservée à l'homme que d'apprendre à discerner, à désirer et à accomplir cette volonté. D'ailleurs, dans Jésus, dans Marc 3, verset 35, « Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » C'est donc bien notre rôle d'enfant de Dieu que de demander que sa volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Cette dernière expression résume à elle seule cette première partie du Notre Père. Ainsi, la proclamation du nom saint de Dieu, l'expansion de son règne, et l'accomplissement de sa volonté nous engage et conditionne vraiment la suite de notre prière en mettant sérieusement à l'épreuve la réalité et la profondeur de la foi que nous professons. La première requête au sujet du besoin de l'homme concerne notre nourriture, donc la nourriture physique, notre pain. Et cela peut sembler léger finalement de prier pour un tel besoin après les trois premières requêtes relative à la gloire de Dieu. Mais c'est pourtant comme cela que Jésus nous l'enseigne. Ainsi, il considère que le premier besoin est sa nourriture. Cela fait écho à Genèse 2, où après avoir créé Adam et Ève, Dieu finalement fait pousser des arbres agréables à voir et à manger. Ainsi, en priorité, Dieu prend soin du corps physique avant d'aller plus loin avec nous. C'est cette même préoccupation que Jacques, chapitre 2, verset 15, nous dit. Donc lorsqu'un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et qu'on leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous et que nous ne leur donnions pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il, la question de Jacques? Bien entendu, la nourriture et tout ce qui est nécessaire à notre subsistance n'est pas une finalité en soi. Et la deuxième requête au sujet de nos besoins concerne le pardon. Le pardon est tout aussi indispensable à la vie de l'âme que la nourriture l'est pour le corps. Le péché est comparé à une dette, car il mérite d'être puni. Mais quand Dieu pardonne, il remet la peine et retire la plainte déposée contre nous. Cette prière a l'audace finalement de mettre en avant notre propre pardon envers ceux qui nous ont offensés. Et ça pour inciter Dieu à nous pardonner. En réalité, Jésus complète ce point-là. Si vous lisez le verset 14 et 15, Jésus précise que si nous ne pardonnons pas aux autres, il refusera de nous pardonner. La vie de communion fraternelle dans l'Église n'existe que par le pardon. Et elle est possible parce que nous sommes pardonnés par notre Père et parce que nous pardonnons nos frères et sœurs. Ce pardon mutuel est vital pour notre âme. Le psaume 32 exprime parfaitement le malaise qui nous caractérise lorsque le pardon fait défaut. Juste, je l'affiche aussi et je le lis. « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Le pardon n'est pas forcément une attitude naturelle. Donc d'où l'importance de se rappeler dans notre prière de sa nécessité à demandant aussi à notre Dieu son aide. Donc arrivent les dernières requêtes, et les deux dernières requêtes sont à comprendre finalement comme les deux facettes, l'une positive et l'autre négative d'une même demande. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Alors, que devient le péché une fois pardonné? C'est fini. Il est supprimé. Il n'existe plus. Oui, on l'a rappelé, hein, par le sang de Christ. Il nous a lavé de notre souillure. Mais cela, on se rend bien compte que ce n'est pas aussi simple dans nos vies. Nous le savons bien, car combien de fois il nous arrive d'être tentés à nouveau et de retomber. Et c'est pourquoi intervient la prière et la demande de l'intervention de notre Père pour que nous ne soyons pas induits en tentation et qu'elle ne triomphe pas de nous. Il me semble que nous n'avons pas trop de problèmes en tant que chrétiens à croire que notre Père nous pardonne. C'est vrai que ça arrive des fois qu'on a du mal. Non, je suis trop mauvais, pas possible qu'il me pardonne. Mais on arrive quand même à comprendre et à entendre ce message du salut et à réaliser que nous sommes sauvés grâce à l'œuvre de Christ. En revanche, je parle pour moi, on a beaucoup plus de mal à croire qu'il peut nous préserver du péché et nous garder de pratiquer des mauvaises œuvres. Mais est-ce qu'on en est convaincu de ça? Pourtant, le salut de Christ dans nos vies est en action. Et la finalité du salut, c'est nous rendre parfaits de façon concrète. Mais encore faut-il être persuadé qu'il en est capable. Avons-nous envie de voir agir notre Père dans notre vie pour nous garder de péché, comme il a fait lors de notre conversion pour nous pardonner? Et cette prière va jusque-là. Et cette prière, elle nous pousse à ouvrir notre bouche pour que nous lui demandons de ne pas être induit en tentation et délivré du mal. Cela fait partie intégrante du plan de salut pour nous amener jusqu'à la perfection. À tous les niveaux, notre Père connaît nos besoins. Et justement, cette prière embrasse l'ensemble de nos besoins humains, qu'ils soient matériels, donc le pain, spirituels, le pardon de nos péchés, ou encore moraux, la délivrance du mal. Nous exprimons notre dépendance à Dieu dans tous ces domaines de notre vie. Et en prononçant cette prière, justement, ce que nous ayons plutôt des tendances à être pharisiens ou plutôt païens, hein, justement, sondons un peu nos défaillances dans un point ou dans l'autre. Cette prière nous façonne une image de Dieu différente de celle que nous avons. Notre prière, avant d'être tournée sur nos besoins, a pour objet la gloire de notre Père, un Père qui aime ses enfants, qui les voit jusque dans le secret, qui les connaît, au point de discerner leurs besoins avant même qu'ils ne les formulent. Enfin, pour terminer, et avant de dire Amen, finalement, cette prière se termine par la louange et l'adoration. En effet, nous reconnaissons en finalité la totale souveraineté de notre Dieu, de notre Père, et nous invoquons son règne une nouvelle fois, sa puissance et sa gloire. Alors avant de partager la Sainte Cène, levons-nous et puis je vous propose de dire cette prière comme Luc nous le dit, nous le demande. Dites cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous de mal. Car à toi appartiennent ta puissance et la gloire. Amen. Vous voyez, ce n'est pas évident. Donc, cette prière, c'est vrai qu'elle soit nôtre. Voilà. Puis je vais inviter donc Nathan et puis Laure pour le partage de cette sainte scène. Et cette prière, finalement aussi, qu'est-ce qu'elle nous aide de faire? Elle nous aide à lever nos yeux. Lever nos yeux vers celui qui a tout entre ses mains. C'est notre Père. Et il y a, avant de pouvoir lever nos yeux vers notre Père, eh ben, Jésus, il a fallu, on l'a rappelé aussi dans les prières, il a fallu qu'il descende sur la terre. Il a fallu qu'il vienne vers nous. Et avant de remonter finalement au ciel, ben on sait qu'il a souffert la mort de la croix. Et justement, sur cette croix, il a été à nouveau élevé. Et je voulais lire passage dans Jean 3. Allez, déjà à partir du verset 12, Jean 3, verset 12. « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est descendu, qui est dans le ciel. » Et verset 14, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Avant de pouvoir élever, c'est vrai, nos regards vers le ciel, vers notre Père, mais il a fallu que nous les levions vers cette croix. Comme Moïse a élevé un serpent, et grâce à ce serpent, ben, tout le peuple d'Israël qui élevait leur regard et pouvait être délivré de la mort, il en est pareil pour nous. Il a été pareil pour nous. Il a fallu que nous élevons nos regards vers cette croix. Cette croix où notre Seigneur, notre Sauveur, est mort à notre place, où son sang a coulé, où justement ce sang nous a lavé totalement de nos péchés. Et c'est vrai que voilà, nous avons ce vin, nous avons ce pain qui nous rappelle aussi ce message pour nous. Alors, au-delà de élever nos regards, de voir bien sûr cette croix, bien, il nous est demandé par le Seigneur de prendre ce repas, de se nourrir aussi, de ce repas, de ce mets qu'il nous a laissé en souvenir de lui. Et c'est cette occasion vraiment que nous puissions nous souvenir de cette œuvre parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ.
Je vais partager avec vous les annonces concernant les activités de l'Église cette semaine. Il y a beaucoup de choses, vous allez voir, choses à faire, à penser, à prier, bien occupé. Lundi, demain, donc, 14h, groupe de dames chez Joël. 19h30, réunion de la commission travaux. Si vous n'êtes pas la commission travaux, vous pouvez aussi prier pour la commission travaux. Ça sera vraiment un bon temps aussi. Mardi, 14h30, étude biblique pour les aînés. Mardi soir, c'est la réunion de prière intercommunautaire de l'Alliance évangélique, ce qui était l'Alliance évangélique, qui n'existe plus, mais ce qui était l'Alliance évangélique. Elle est partagée par toutes les églises de la pastorale. Elle a lieu à Ferney-Voltaire, dans l'église des actions de Assemblée de Dieu, ça y est, j'ai trouvé. Assemblée de Dieu à Ferney, à 20h. Je vous invite vraiment à y participer, c'est un bon moment de partage avec les frères et sœurs d'autres églises. Il y a des petits plans, au fond, vous pouvez les prendre, c'est tout simple, c'est quand vous allez sur Ferney depuis Leclerc, c'est après la planche brûlée, c'est la première à gauche, c'est tout simple. C'est-à-dire quand vous passez au feu, vous tournez sur Ferney, c'est la deuxième rue à votre gauche et c'est le premier immeuble que vous avez à droite. Donc c'est simple à trouver, 20h, je vous invite vraiment à y participer. Voilà, et c'est marqué sur le petit papillon, il faut faire des demandes à Dieu, le prier, le supplier et le remercier pour tous les êtres humains. Il faut prier pour ceux qui nous gouvernent et pour les autorités. Voilà ce qui est beau et qui plaît à Dieu, notre Sauveur. Je crois que ça complète bien ce que nous avons entendu ce matin. Ça, c'est pour mardi soir. Mercredi, ici, la chorale. Samedi, notre séminaire, donc réflexion sur la prière, pour envie de prier, donc. Un certain nombre de personnes se sont inscrites déjà. Je n'ai pas envie de dire beaucoup, mais un bon nombre de personnes se sont inscrites. C'est bien, on est réjouis. Vous pouvez encore vous inscrire. Si vous êtes motivé ce matin, alors inscrivez-vous vraiment. Et puis même si vous ne vous êtes pas inscrit, si samedi vous voulez venir, au dernier moment, vous pouvez encore venir. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est que les gens participent à l'ensemble de la journée. Ça, c'est important. Donc samedi, le rendez-vous est à 9h30 ici, un petit café, et puis à 10h, on commencera. Voilà, si vous avez des questions à ce sujet, vous venez vers John, Philippe ou moi, on vous expliquera exactement ce dont il s'agit. Mais c'est vraiment un temps important à mettre aussi. Et puis, je ne sais pas, il y avait groupe de jeunes marqué encore 18h30, 21h, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas. Quel groupe de jeunes saura, hein ? Voilà. Dimanche, notre culte, et on aura la chance d'avoir aussi le message de Yann Newberry qui nous conduira dans cette série samedi. Et puis, pour le week-end d'après, le samedi d'après, 26, le club d'enfants, redémarrage du club d'enfants, le 26, il y a des papillons au fond, prenez-les pour inviter les copains de vos enfants ou des petits-enfants qui sont autour de chez vous. C'est quel âge le club d'enfants ? C'est 4 à 4 à 13. 4 à 13. Voilà.
Parce qu'on
ne
veut pas les perdre.
OK. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres annonces pour la vie de l'Église que j'aurais oublié ? Non. Alors, je vous partage encore quelques nouvelles. Pensons aux personnes qui souffrent, qui sont fatiguées. Pensons spécialement à Roby, qui est toujours à l'hôpital, à Saint-Just. Pensons à Gilbert. Pensons à Abel, qui a aussi des suites difficiles d'une nouvelle opération de ses yeux et qui a pas mal de soucis de ce côté-là. Pensons à Guylaine, pensons à Heidi qui est fatiguée aussi aujourd'hui. Voilà, pensons à nos anciens qui sont pour qui aussi le poids des ans se fait sentir. Une petite annonce un petit peu plus ciblée. Lors du dernier dimanche de l'année, donc où on avait les témoignages, Jean-Michel est venu ici et nous a fait part de son désarroi, vous l'avez entendu. On voulait vous tenir au courant, mais on voulait aussi faire le point un petit peu, vous tenir au courant. Donc, dans le foyer de Jean-Michel et d'Anna, il y a un gros problème de dépendance. Et puis, suite à ça, il y a un travail qui a été entrepris, notamment par la famille de Anna, en concertation aussi avec les anciens. On a eu un bon partage aussi avec eux cette semaine encore. Donc, vous donnez les nouvelles toutes fraîches. Quand Jean-Michel a dit « on est au fond du trou », c'était vrai, c'est vrai. Donc on veut continuer à prier vraiment très fort pour ce couple, pour toute la famille. Vous dire que Anna, depuis la semaine passée, a fait un séjour à l'hôpital déjà. Et puis elle est depuis hier soir, en principe, on n'a pas eu de nouvelles depuis hier soir, mais voilà, c'est juste, hein, bien arrivé. Merci. Donc voilà, Anna est dans une structure d'accueil à Toulouse depuis hier. On veut vraiment, vraiment, vraiment très fort prier à elle. Elle compte sur nous aussi. Elle est très motivée pour faire ce pas, cette marche. Donc on veut vraiment penser à eux, penser à toute la famille, à Jean-Michel, à Anna, à Anthony, aux enfants. Pensons à Anna là où elle est, un petit peu éloignée aussi, seule. Hein. Vraiment, vraiment la portée. Je crois que c'est peut-être, on a parlé, je vais pas parler d'engagement mais ou de vœux, mais peut-être un défi pour nous. Pour nous, Église, un défi de mettre Anna en premier, et Jean-Michel et cette famille en premier dans nos soucis de prière, personnels et en tant qu'Église. Je crois que ça nous interpelle aussi. Et on veut vraiment là leur manifester notre amour aussi. Donc, Jean-Michel est là, vous pouvez lui dire un petit coucou après. Pensez aussi à Jean-Michel pour la suite aussi, et pour qu'il puisse aussi lui aussi régler aussi ses problèmes par la suite. Voilà. Suite à ça, vous avez certains été étonnés que sur le site de l'Église, on ait enlevé les témoignages du cinquième dimanche. Alors, oui, je comprends votre étonnement. On a décidé de le faire. Vous savez que le site de l'Église, les cultes sont ouverts à tout le monde. Il y a des gens de tout pays. Allez voir tout en bas du site, il y a une petite carte. Vous appuyez dessus, ça vous montre toutes les personnes qui vont consulter le site. Vous allez être étonné de voir dans quel pays il y a des gens qui vont ouvrir le site de l'Église. Donc, Jean-Michel nous a fait part de quelque chose de à partager dans l'Église, et on a voulu enlever ces témoignages pour que ça reste un petit peu plus dans l'Église aussi, en tout cas avant qu'on vous les ait partagés. Et puis ça nous interroge aussi sur le fait, est-ce qu'il faut laisser toujours ces témoignages qui sont souvent personnels? Peut-être ça peut gêner des gens de les avoir qui partent aussi un petit peu partout. Vous y réfléchirez aussi, vous nous ferez part de votre avis, de vos avis d'ailleurs, c'est intéressant aussi de les avoir. Deux petits détails pratiques encore, alors tout à fait pratiques cette fois. Charlie qui habite à côté et qui voit bien ce qui se passe à l'église et qui entretient les alentours, il taille la haie, donc il taille la haie, vous savez, il l'a raccourci, c'est pour mieux voir encore hein, ce qui se passe à l'église. Et il a vu cette semaine avec sa haie courte qu'il y avait souvent des lumières qui restaient allumées suite à des utilisations. Alors donc il faut qu'on y pense, il y a deux choses importantes, c'est quand on vient dans la semaine, éteindre les lumières et puis fermer les portes. C'est important, parce que c'est souvent aussi que c'est un petit peu ouvert à tout vent. Bon, jusqu'à présent, merci, Dieu nous a gardés, on n'a pas eu trop de vols ou de choses comme ça, mais continuons à fermer les portes, c'est mieux. Et puis un petit détail pratique pour tout le monde, dans la cuisine, sous les tables, il a été mis à partir de ce matin des bacs de récupération pour le tri, papier, carton, bouteille. Vous mettez dedans, ça évitera de vider les poubelles après pour faire du tri encore. C'est beaucoup plus simple et quelqu'un s'occupe de les ramasser. Voilà, beaucoup de choses. Je vous invite à vous lever. Et je vous lirai encore deux petits versets. Ah, je voulais faire un petit coucou encore à deux personnes qui sont là et qu'on n'a pas vu depuis longtemps, c'est Georges et Thérèse. Ça nous fait plaisir d'avoir partagé ce culte avec vous. On est heureux de vous retrouver dans la maison de Dieu. C'était la vôtre pendant tout un temps. On est heureux de se retrouver. C'était un petit accent qui nous manquait un petit peu, Georges. À la fin de l'épître de Pierre, nous lisons ceci. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui, la puissance, au siècle des siècles. Amen.